Et encore les bienvenus et on est heureux de se retrouver ce matin pour partager ce culte ensemble. Alors comme Pierre l'a dit, effectivement, il n'y a pas de surprise hein, sur le thème du message de ce matin, c'est le dimanche des rameaux. Donc c'est un texte, une situation, enfin une histoire qui est relativement bien connue. Et quelque chose qui a retenu mon attention dans ce passage, c'est que pour une même réalité, et Pierre en a un petit peu parlé, on peut avoir deux visions différentes ou deux interprétations différentes d'une même réalité. Et c'est un peu comme cette image. C'est un peu comme cette image que vous connaissez. Alors pour l'enregistrement, c'est un dessin au fuseau, c'est un trompe-l'œil. Et donc, qui voit... Vous ne connaissez pas ? Qui voit la vieille dame ? Levez la main. Ok. Qui voit la jeune dame ? Ah, beaucoup plus. Beaucoup plus. Bon, je vais vous aider. Je vais vous aider. Alors, la jeune dame, elle est en buste et elle regarde vers l'arrière. Alors, j'ai enlevé un petit peu des détails et j'ai accentué d'autres. Et donc là, on voit vraiment la jeune dame qui regarde vers l'arrière. Et la vieille dame, elle est en portrait de profil. Alors là aussi, j'ai mis un peu des détails, j'ai mis des yeux bleus et du rouge à lèvres. Comme ça, on peut bien voir la vieille dame en profil. Vous voyez ? Il y a les deux. Ah, le tableau du départ. Non, tu le chercheras sur Internet. La même image qui présente deux réalités différentes selon l'angle de vue. Alors, je ne sais pas si ça vous fait le même effet, mais tous ceux qui ont vu la jeune dame, même en mettant du bleu et du rouge, est-ce que vous voyez encore la jeune dame ? Ouais, un petit peu, hein ? Et ceux qui ont vu la vieille dame, est-ce qu'ils voient encore le gros nez et les yeux, tout ça ? Ce qui me frappe, c'est que même des fois, quand on enlève certains détails, quand on en accentue d'autres, on continue à avoir... Dans notre arrière-pensée, notre cerveau, il a enregistré l'image de départ. Alors, ce matin, j'aimerais, pour qu'on puisse bien s'immerger dans la situation, dans ce qui va être vécu, faire une petite présentation, 3 minutes, de l'entrée de Jésus dans Jérusalem via un extrait de Chosen. Alors, j'ai mis tout un tas de trucs pour bien le mettre, le caler, tout ça. Bouge dans l'autre sens. Ah ouais. Voilà. Bon, on n'a pas fait pour que le son soit optimal.
Allez, venez, ne restez pas là. C'est merveilleux pour vous aussi. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On ne va quand même pas marcher derrière lui comme si on était ses disciples.
On va entrer par une autre porte. Suis-moi.
Thank you.
c'est un peu extrapolé hein, dans The Chosen, mais je voulais arriver jusqu'à à ce moment-là où, effectivement, on voit dans d'autres textes où Jésus, il a ce moment où il sait que ce qui va se passer. Je cherche ma souris. Ah, voilà. Je vais maintenant lire ce passage dans la Bible. C'est la Bible qui fait foi. Hein. Le film est bien. Il nous donne de belles images. Seulement, je ne vais pas le lire dans un seul évangile. J'ai fait une compilation des 4 évangiles. Ils ont des regards différents, croisés. Ils ont des détails différents et parfois même qui pourraient paraître controversés. Pendant la lecture, je vous invite à être attentif à 2 choses. Les changements de situation et ce qui pourrait changer votre manière de voir l'action de Jésus. Je mets en introduction un passage dans Jean qui nous donne un peu de contexte. Donc, pour l'enregistrement, on va lire dans Jean 12, dans Matthieu 21, dans Marc 11, dans Luc 19, et encore Jean 12, Luc 19 et Matthieu 21. Marc 11 est au milieu, mais non, Damien n'y voit pas un chiasme. Une foule de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie, et ils y vinrent, non seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité. Le lendemain, lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagé, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient à toi, plein de douceur, et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait demandé, et ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent leurs vêtements sur eux, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Déjà, il approchait de Jérusalem vers la descente du mont des Oliviers. Alors, toute la foule des disciples, remplis de joie, se mirent à adresser à haute voix des louanges à Dieu pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Tous ceux qui étaient avec Jésus quand il avait appelé Lazare à sortir du tombeau et l'avait ressuscité, lui rendaient témoignage. C'est aussi la raison pour laquelle la foule vint à sa rencontre, parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce signe miraculeux. Du milieu de la foule, quelques pharisiens dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples !» Il répondit, « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. » Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna dans les lieux très hauts !» Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut troublée. On disait « Qui est cet homme ?» La foule répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Jean nous donne effectivement un détail important. La veille, et c'est que dans Jean qu'on le trouve, Jésus était à Béthanie. Il était chez Lazare qu'il avait ressuscité et beaucoup de gens étaient venus le voir et voir Lazare. Très probablement, parce que Béthanie n'est pas très loin de Jérusalem, hein, cette foule qui était là eh bien, a dû savoir que Jésus allait à la fête et donc a accompagné Jésus vers Jérusalem. Et donc, Jésus, quand il arrive vers Jérusalem, il est entouré d'une foule de disciples. Et donc, nous arrivons après sur notre passage dans lequel on peut relever trois scènes différentes. La première, c'est l'attente de la venue du roi. Et comment Jésus va y répondre ? Parce que si Jésus est entouré de sa foule de disciples, on voit dans le fond de l'image que les gens, ils sont déjà là avec des palmes, ils attendent le roi. Et on va voir en quoi cela correspondait. Puis il y a l'accueil, la proclamation. Jésus arrive avec sa foule, il crie « Hosanna » et tout, et puis d'un coup toute la foule est en liesse, et puis on lui fait toute une haie d'honneur. Mais qu'est-ce que cela implique vraiment, cette proclamation de sa royauté ? Et enfin, il y a la réelle œuvre de Christ, le salut. « Hosanna, sauve donc, comme nous l'a rappelé Pierre. » Et donc, nous allons avoir trois points ce matin. On va parler de nos attentes, pour après parler du roi, et enfin finir par celui qui sauve. Lorsque nous regardons cette scène, il y a un détail qui attire l'attention. Quand vous regardez là, si vous regardez une scène d'une foule, qu'est-ce qui vous frappe là ? Voilà, ils ont tous des branches de palmier. Ils sont tous là, ils tournent en rond, ils chantent, ils dansent, ils ont leurs branches de palmier. Mais ça, c'est surprenant. Vous savez pourquoi ? Parce que cette cérémonie des branches de palmier, en fait, normalement, elle n'est pas liée à la Pâque. Elle est liée à une autre fête. Une autre fête qui s'appelle Soukhot. Ou alors la fête des tentes ou des tabernacles. C'était une fête qui commémorait le fait qu'Israël a été 40 ans sous des tentes dans le désert. Et c'est une fête qui existe toujours, hein, que les Juifs pratiquent encore. Donc c'est la fête des tentes. Et ils se rappellent que pendant 40 ans, ils ont été dans le désert, sous des tentes, et ils dépendaient de Dieu. Et donc pendant cette fête, ils prenaient des branches de rameaux, des rameaux de toutes sortes d'arbres et de palmiers. Pourquoi ? Parce que ça leur rappelait que Dieu leur donnait à boire dans le désert. Et donc, quand ils acclamaient comme ça, ils priaient, ils demandaient, ils exprimaient leur espérance pour la pluie, pour les moissons, pour la bénédiction, mais aussi pour la délivrance. La délivrance des oppresseurs. Cependant, ici, on n'est pas à Pâques, on n'est pas à Soukhot, hein, qui est le septième mois du calendrier juif, on est à Pâques, qui est le premier mois du calendrier juif. Mais à cette époque-là, et encore maintenant, ils attendaient tellement leur Messie, leur roi, qu'à Pâques, ils reprenaient ces symboles de Soukhot pour dire « Viens Seigneur nous libérer, viens Seigneur nous délivrer ». Et donc, à Pâques, ils pensent encore que le Christ, le Messie, allait revenir pour les délivrer. Et tellement que pendant la cérémonie de Pâques, le Seder, eh bien, ils mettaient à part une coupe pour Élie. Et ils laissaient la porte ouverte pour le laisser entrer. Parce que selon la prophétie donc, de Malachie, voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que vienne le jour du Seigneur. Et donc, ils attendaient tellement leur roi qu'à Pâques, ils pensaient que comme Dieu les avait délivrés de l'oppression des Égyptiens à Pâques, il allait encore les délivrer de tous les oppresseurs à Pâques. Et c'est pour ça qu'ils chantent ça, ils attendent leur roi. Ils attendent ce roi qui va venir les délivrer, qui va venir leur apporter la liberté et la bénédiction. Et voilà que Jésus arrive, non pas sous l'angle de l'attente du peuple, un peuple qui attend un roi triomphant, mais comme un roi humble, Il n'arrive pas comme un roi victorieux pour régner et imposer sa loi et sa justice. Mais il arrive comme un roi humble, plein de douceur, qui vient apporter la paix. Un contre-pied total à l'attente du peuple. Alors nous aussi, nous avons des attentes envers Dieu. Nous avons des attentes pour un travail. Seigneur, aide-moi à trouver un travail. On a peut-être des attentes pour un foyer, un couple, qu'on aimerait bien trouver le conjoint. On a des attentes peut-être pour sa famille, pour l'éducation. On a des attentes aussi peut-être pour nos projets. Seigneur, viens bénir. Seigneur, voilà, je remets tout cela entre tes mains. Seigneur, je m'attends à toi. Donne-moi la bénédiction. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt attendre d'être béni au travers des projets que Dieu a déjà préparés d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions? Seigneur, merci parce que tu veux et tu agis dans ma vie. Mais aide-moi à voir ta main dans tous les actes de tous les jours. Aide-moi à comprendre ton plan et surtout à l'accepter. Face à ces attentes, Jésus ne subit pas les événements. Il organise lui-même son entrée dans Jérusalem, qu'il va mettre en scène. Il ne se contente pas juste d'arriver, il va demander à ses disciples d'aller chercher un âne. Et tout est déjà prêt. L'ânesse, l'âne, les gens qui vont les intercepter, et puis finalement qui vont les laisser aller, tout ça est déjà prévu. Et Jésus met en scène son entrée pour que s'accomplisse effectivement la prophétie de Zacharie 9:9 qui nous a été rappelée aussi et qui était marquée avant. Voici ton roi qui vient à toi. Cependant, la foule ne comprend pas la subtilité. Elle voit juste ce fameux rabbi, ce fameux Jésus, lui qui a déjà fait tant de miracles, arriver à ce moment-là. Et donc pour eux, ce n'est pas une coïncidence, et ça n'en est pas une. C'est enfin la réalisation des promesses. Voici le roi. Et donc, ils acclament Jésus en tant que roi. Ils étendent leurs vêtements et les branches de rameaux, comme on ferait un tapis rouge pour une célébrité. Et Jésus entre. Il accepte cette acclamation. La foule pense qu'il va répondre à ses attentes. Mais cela se dévoilera quelques jours plus tard. Ce même titre de roi sera utilisé dans un autre contexte. Voici le roi des Juifs, écrit sur une pancarte. Celui-ci est votre roi, et même en plusieurs langues. Le titre est le même, mais l'intention est complètement différente. Et cela nous pose une question personnelle. Quelle est ma notion de royauté de Jésus dans ma vie? Moi aussi, et j'espère que nous tous, nous avons accepté Jésus-Christ comme roi et Seigneur. Et de ce fait, il est. Mais est-ce que je lui donne vraiment cette place de Seigneur? Est-ce que c'est lui qui dirige ma vie? Ou est-ce que je prends ce que j'ai envie? Seigneur, je te veux bien comme roi, mais ça, je continue à le faire parce que ben, ça me fait du bien, ça m'arrange. Et puis finalement, un jour, est-ce que ce titre de roi ne sera pas qu'une pancarte affichée? Jésus veut vraiment être ce roi, mais ce roi de paix, qui ne veut pas venir conquérant victorieux, nous oppresser, mais au contraire, qui veut venir pour nous relever, pour nous renouveler, pour nous élever vers quelque chose de meilleur et de parfait. Et donc, je voudrais revenir à ce symbole, à Soukhot. Vous connaissez l'histoire? Soukhot, Jésus dans le temple. Pendant 6 jours, on versait de l'eau sur l'autel. Le 7e jour, on ne faisait rien. Jésus est dans le temple et il se lève. Le dernier jour, il s'écrie « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Il disait cela du Saint-Esprit qu'il donnerait. Déjà là, quelques mois avant, Jésus annonce qu'il est celui qui va donner la vie en abondance. Et les gens ne s'y trompent pas, parce que si vous relisez donc ce passage de Jean au chapitre 7, les versets 37 à 42, les gens se disent « Celui-ci est vraiment le prophète ». Et d'autres disaient « C'est le Messie, c'est le roi, celui qu'on attend ». Quelques mois avant Pâques, Jésus annonce déjà qu'il est le Messie, ce roi qui vient, qui veut régner dans nos vies pour nous donner la vie. Est-ce que Jésus est vraiment roi dans ma vie? Alors, il est facile peut-être, de chanter et de proclamer que Jésus est le roi. Et peut-être qu'il aurait fallu qu'on chante après le message, de réfléchir à la portée de tous ces textes qu'on a chantés. Formidable. Ça collait tellement bien. Bon, après, c'était Rameau, hein, mais tellement bien. Est-ce que Christ est vraiment le roi, quand nous l'avons chanté? Le roi, celui qui dirige mes choix, mes priorités, mes attitudes. Est-ce qu'on lui donne notre vie totalement? Christ ne veut pas nous oppresser. Il ne veut pas qu'on devienne austère. Au contraire, il veut nous donner la vie et la vie en abondance. En nous donnant son Saint-Esprit, il nous fait enfants de Dieu. Il nous accueille dans sa famille. Il nous donne une nouvelle identité, de la reconnaissance. Il nous donne de la valeur, un avenir. Tu es précieux pour lui. Jésus peut répondre, si tu l'acceptes comme roi, il peut répondre complètement à toutes tes profondes aspirations. Notre valeur, c'est le prix de sa vie. Alors, n'hésitons pas à lui laisser totalement notre vie, parce qu'il nous aime et il veut nous chérir. Donc, nous avons vu les attentes du peuple et comment Jésus y répond. Et puis, nous avons vu qui est ce roi et qu'est-ce qu'il veut vraiment faire dans notre vie. Et puis, nous allons maintenant nous arrêter sur le sens profond de cette acclamation « Hosanna ». Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts ». La foule crie « Hosanna ». Et ce mot est souvent compris comme un cri de louange, mais en réalité, comme cela nous a été rappelé, ça signifie « Sauve donc ». C'est un appel, un cri à être sauvé. Donc il vient du psaume 118, comme on l'a dit, hein. « Éternel accorde le salut ». La foule pense demander la victoire pour son roi parce qu'elle imagine un roi politique, militaire, national. Mais en citant ce psaume, elle annonce, sans le comprendre, quelque chose de beaucoup plus profond. La pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre d'angulaire. Merci Teresa pour le message. C'est l'œuvre de l'Éternel, c'est un prodige, à nos yeux. Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Éternel, accorde donc le salut. Éternel, donne le succès. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu, il nous éclaire. Attachez la victime de la fête avec des liens aux cornes de l'autel. Sans le savoir, la foule est en train d'acclamer celui qui va devenir la victime du sacrifice. Hosanna au fils de David. Si je remplace par sa translittération Hosanna, accorde donc le salut. Accorde donc le salut au fils de David. Et dans le grec, au fils de David est un datif, donc qui est le sujet de Hosanna. C'est lui l'objet. 8 jours plus tard, d'autres voix crieront « Sauve-toi toi-même !» Les passants l'insultaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même ! Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix !» Les chefs des prêtres, avec les spécialistes de la loi et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient « Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il aime. En effet, il a dit « Je suis le Fils de Dieu. » Le même mot. La même attente? Pas tout à fait. Jésus ne descendra pas de la croix. Pourquoi? Parce que pour nous sauver, il devait rester. Nous sauver. Mais nous sauver de quoi? Très souvent dans nos pays occidentaux, on a une vision un peu superficielle du salut. On pense qu'on a besoin d'être sauvé de nos problèmes, de nos difficultés, de nos circonstances. De quoi avons-nous besoin d'être sauvés? De la mort, du péché. Un jour, j'ai prêché sur cette notion du péché, et donc de la perdition, de la mort. Et après le message, on est venu me voir en me disant « Oh, Jean-Jacques, c'est démoralisant ta prédication. Pourquoi il faut qu'on croie parce qu'on doit être pardonné du péché ou qu'on soit sauvé de la perdition? Mais Dieu est amour! Jésus est amour! On a juste à croire! Et puis, c'est merveilleux! » Oui, la Bible dit que notre problème le plus profond est le péché, cette séparation avec Dieu. Et sans le sacrifice de Christ, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de salut. Est-ce que j'ai conscience que j'ai besoin d'être sauvé? Est-ce que j'en ai conscience? J'ai besoin fondamentalement d'être sauvé. Et sans le sacrifice de Christ, je ne peux pas entrer dans la présence de Dieu. Impossible. Aussi bon que vous puissiez être, vous ne pouvez pas entrer dans la présence de Dieu. Alors de quoi as-tu besoin d'être sauvé ce matin, d'être délivré? Est-ce que tu penses encore que tout est beau et tout est formidable et que juste de croire en Jésus, c'est suffisant? Est-ce que tu as des fausses croyances disant que finalement, tu n'as besoin de rien ni de personne et que la vie va comme elle va? Ou est-ce que tu as des questions aussi existentielles sur ta raison d'être aimé, d'aimer, de ton avenir ou de ta vie d'après? Jésus est entré dans Jérusalem comme un roi, mais il en est sorti quelques jours plus tard portant une croix. Et c'est précisément ainsi qu'il nous a sauvés. J'ai besoin d'être sauvé, et pour cela, Christ va payer le prix. Sauve le roi, Hosanna au fils de David. Dieu va le sauver, parce qu'il va le ressusciter. Il est vivant et Dieu l'a relevé des morts et nous avons cette certitude qu'il vit à jamais et que nous aussi qui croyons en lui et qui on reconnaît notre besoin d'être sauvés, que nous vivrons à jamais avec lui. Il est celui qui te sauve, qui te donne une identité, une appartenance, une raison d'être, un nouveau nom, un nouveau statut et une espérance. Au début de ce message, nous avons parlé des attentes de la foule qui attendait un roi. Et Dieu a répondu, « Voici ton roi, humble, monté sur un âne. » Ce roi n'est pas venu régner par la force, mais il est venu pour sauver par son sacrifice. J'ai donné trois titres à ce message qui forment une sorte de phrase pour nous aider à nous rappeler ces trois mouvements. De nos attentes, voici ton roi, celui qui sauve. De nos attentes, voici ton roi, celui qui sauve. Alors la question pour chacun de nous est simple. Quelles sont tes attentes envers Dieu ? Que Dieu entre dans tes projets ou que toi, tu entres dans les siens ? Est-ce que Jésus est un roi, juste une pancarte ? Il est le roi ? Ou est-ce qu'il est vraiment le roi de ta vie, le Seigneur ? Et est-ce que tu reconnais que tu as besoin d'être sauvé ? Sans son sacrifice, tu ne peux pas entrer dans sa présence. Car la bonne nouvelle, c'est que la foule qu'il a accueillie ce jour-là, la bonne nouvelle, c'est que celui que la foule a accueilli ce jour-là est celui qui est monté sur une croix, mais c'est aussi celui que Dieu a ressuscité. Il est celui qui donne la vie en abondance. Il sauve encore tous ceux qui veulent mettre leur confiance en lui. Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela ? Je vous invite à prier. Hosanna, Hosanna au Fils de David, Hosanna au roi qui vient. Seigneur, oui, tu es celui qui sauve et qui veut nous sauver. Nous voulons t'acclamer comme roi, comme Seigneur dans nos vies. Et Seigneur, tu vois qu'on est, c'est vrai, en chemin, mais tu nous demandes à toujours plus te confier nos vies, toutes nos vies, Seigneur. Merci parce que tu n'es pas un roi qui est là pour nous oppresser, pour nous rendre austères, pour nous rendre tristes et malheureux, mais bien au contraire, Seigneur. Tu nous demandes de te donner tous les aspects de notre vie parce que tu veux nous renouveler, tu veux nous remplir d'une vie abondante par ton Saint-Esprit. Seigneur, merci de ce que tu veux prendre soin de nous. De ce que tu veux que nous puissions nous abandonner totalement à toi. Pas que toi, tu rentres dans nos projets, mais que nous, nous puissions nous abandonner à toi. Parce que tu as des plans de paix, tu as des plans d'amour. Tu nous aimes. Notre vie est tellement précieuse que tu as donné la tienne, Seigneur. Oui, j'ai besoin d'être sauvé. J'ai besoin de toi, Seigneur. Merci parce que tu es le roi. Et Seigneur, je jalouse un petit peu ce peuple qui t'attendait avec tant d'ardeur. Que je puisse aussi attendre ton retour, Seigneur, comme le roi qui vient régner pour de bon, Seigneur, sur cette nature, Seigneur, et vers ce nouveau royaume, cette nouvelle terre que tu nous promets. Oh Seigneur, reviens bientôt. Seigneur, reviens bientôt. Nous t'attendons, Seigneur. Merci parce que tu es venu et tu reviendras, peut-être à Pâques. Des fois, Seigneur, tu mets tout en œuvre et ça nous surprend. Seigneur, mais tu reviens bientôt et nous voulons t'attendre, Seigneur. Béni sois-tu. Amen.